Amis, encore une fois nous sommes venus, encore une fois, pour chanter Pâques, avec obstination, pour défier, grâce à Dieu, les forces des ténèbres, et pour croire encore que la nuit ne peut empêcher Dieu de faire lever la lumière. Nous sommes venus pour cueillir l'espérance, pour respirer la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes et des peurs, pour trouver la paix qui surgit et qui tient bon face aux conflits et aux difficultés, pour recevoir la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc pour célébrer l'œuvre de Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement, consiste sans relâche à relever la vie dans l'éternité. Amen. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter le premier des cantiques de ce culte de Pâques, le cantique 211, les strophes 1, 2, 5 et 6 du cantique 211, « Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ». Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Éléonore va nous conduire.
Béni sois-tu, éternel Dieu. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus, ton Fils. Il nous a parlé de toi comme d'un père qui prend tout le monde à sa table, qui se laisse déranger en pleine nuit et qui attend à bras ouverts même ceux qui s'éloignent au-delà des frontières du refus. Béni sois-tu, éternel Dieu. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus-Christ, notre frère. Il nous a parlé de nous-mêmes, en nous disant que nous étions grands et bâtis à ton image. Il nous relève dans la dignité et dans l'humanité. Il nous donne le courage de marcher sur notre route. Béni sois-tu, éternel Dieu. Aucune puissance n'a pu emmurer Jésus-Christ, notre Sauveur. L'amour qu'il a distribué, le pardon qu'il a offert, la liberté qu'il a éveillée, la vie qu'il a relevée. Tout ce qu'il a servi de la part de Dieu illumine notre existence et l'humanité tout entière. Béni sois-tu, béni soit Jésus-Christ, qui ranime notre espérance et nos forces, et qui allume un grand feu d'amour dans le cœur de notre vie. Amen.
Et nous poursuivons la louange par le chant du cantique 204. Le Sauveur est ressuscité, nous le chantons en entier. prenez place. Et voici une proclamation de Pâques, écrite par le pasteur Charles Wagner dans son livre « Devant le témoin invisible ». Au Vendredi Saint, voici le jugement des hommes. Toi, Jésus de Nazareth, qui es venu absolvant ce que nous condamnons et condamnant ce que nous proclamons juste, préférant au premier des Juifs le dernier des Samaritains, fléchissant le sabbat devant l'homme misérable, appelant les pécheurs et les péagés tes frères, et les prêtres comme les pharisiens des hypocrites. Toi qui as égalé la montagne sacrilège de Garizim à la montagne sainte, toi qui as dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », nous te maudissons. Nous te fermons la bouche, nous éteignons ton regard qui séduisait les foules, nous te clouons au bois infâme. Nous te couvrons, toi, tes paroles et ton œuvre, de la nuit du tombeau et d'un éternel opprobre. Il n'en sera plus question à jamais. Et à Pâques, voici la réponse de Dieu. Toi, Jésus de Nazareth, mon fils, qui as passé en aimant sur une terre de sang et de haine, qui a dit au pécheur que je lui pardonne, à l'orphelin que je suis son père, au pauvre que je suis son protecteur, à l'opprimé que je suis son libérateur. Toi qui as essuyé les larmes de ceux qui pleurent, bandé les plaies de ceux qui sont meurtris, montré le ciel aux mourants. Toi qui as porté tous les fardeaux et saigné de toutes les blessures, toi que nul n'a compris, pas même tes amis. Toi dont le cœur brisé a cessé de battre au milieu des huées et des injures de tes ennemis. Ô victime innocente qui succombe en priant pour tes bourreaux, je te bénis. Et sur ton front, encore déchiré par une couronne d'épines, je pose la couronne de l'éternité. Cette œuvre que tu laisses, faible, inachevée, j'en fais mon œuvre. La mort ne pourra rien, ni contre elle, ni contre toi. Tu ne seras plus l'homme matériel attaché à un coin de la terre, l'homme qui n'a qu'une voix pour parler et un cœur pour aimer, qui toujours et malgré tout se débat dans les limites étroites des existences corporelles. Tu seras l'esprit qui souffle où il veut. Tu parleras toutes les langues, tu frapperas à toutes les portes. Tu marcheras sur toutes les routes, invisible, insaisissable, si doux que les siècles des siècles s'attendriront à ta voix, si fort que les murs, les prisons, les supplices, les préjugés, les crimes, toutes les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Crucifié d'un jour, sois le Christ éternel, le Prince de la vie. Nous nous levons pour chanter au cantique 203 « Jésus sort de la tombe ».
Thank you.
Nous prions avant de lire les Écritures. Dieu très bon, le jour s'est levé. Ressuscite nos vies dans ta lumière. Que ton esprit illumine nos esprits et nos existences, afin que par ta parole, nous devenions des êtres de lumière. Amen. Nous lirons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Quel étrange texte pour un matin de Pâques! Pas la moindre petite trace d'un élan de joie, mais l'effroi, la stupeur, les tremblements, la peur et le silence des femmes. Pas la moindre apparition du ressuscité non plus. Il n'est pas là, pas là du tout. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, dit le jeune homme. Pas ici, pas maintenant, un futur, un ailleurs, et en dernier mot, la peur. Quelle étrange finale que celle de l'évangile de Marc. Car c'est ainsi que se termine cet évangile, quel qu'ait été le nom de l'évangéliste, et d'ailleurs peut-être était-il plusieurs, à réfléchir, à méditer, à prier pour écrire, et pour décider de cette chute abrupte, dérangeante, intrigante, presque inquiétante. Bien sûr, il est possible de se dire que tout de même les femmes ont dû parler. Peut-être quelques heures plus tard, peut-être le lendemain, une fois les tremblements calmés et la peur ayant reflué. Mais ce n'est pas ce que Marc a décidé d'écrire. Non pour solliciter l'imagination et le raisonnement des lecteurs, mais parce que ces quelques phrases que nous avons lues suffisent pour dire ce qu'il voulait dire. Alors certes, dans les Bibles, nous pouvons lire quelques lignes supplémentaires, ajoutées postérieurement à la rédaction de l'Évangile. Quelques lignes, quelques versets en forme de compilation et de condensation des récits d'après Pâques des autres Évangiles. Tout ensemble, des apparitions de ressuscité à Marie de Magdala, aux disciples, un envoi aux missions et même l'ascension du ressuscité. Et plus précisément, ce sont même deux ajouts qui ont été faits, deux finales, une longue et une courte, sans souci d'articulation de l'une à l'autre, mais pour terminer le texte sur une note positive et rassurante. Mais ce n'est pas ce que Marc avait décidé. Alors prenons-le un peu au sérieux. Lisons son texte tel qu'il l'a voulu. Pas d'apparition du ressuscité. Pas de joie. Alors quoi ? Ce qui apparaît à la lecture de l'ensemble de l'évangile de Marc, c'est que l'auteur se méfie beaucoup des miracles. Alors certes, il en a écrit plusieurs, mais à la suite desquels Jésus ne cesse d'ordonner le silence à ceux qui en ont bénéficié et à ceux qui en ont été témoins, lesquels le plus souvent s'empressent de les rapporter largement autour d'eux. En ce qui concerne la résurrection, Marc se montre encore plus radical. Pas d'apparition du tout. et les lecteurs feront avec, ou plutôt sans. Ils ne liront rien à ce sujet. Mais c'est ainsi que Marc évite ce qui représente pour lui deux risques majeurs pour les lecteurs et les croyants. Le premier, c'est de mettre sa foi dans un texte. Le second, c'est de croire en raison d'un miracle, une guérison, marcher sur les eaux ou la résurrection. Mettre sa foi dans un texte, c'est croire ce qui est écrit. Croire parce que c'est écrit, et dans la Bible, à plus forte raison. Mais cela revient à considérer l'écrit comme une preuve. Et cette attitude est à mille lieues de la confiance. Elle conduit au littéralisme et à l'extinction de toute réflexion, de tout esprit critique et de toute interprétation. Croire en raison d'un miracle, c'est s'attacher à l'extraordinaire, à un phénomène inexplicable par la connaissance, une fascination qui rend dépendant au miracle constaté, au miracle rapporté par d'autres, mais qui laisse particulièrement démuni face aux épreuves et face à la question du sens de l'existence. Donc pas de récit d'apparition dans l'évangile de Marc. Il ne s'agit pas de lire ou de voir pour croire. Et la sobriété de l'évangéliste lui évite d'avoir ajouté une formule analogue à celle de l'évangéliste Jean bien connu, « Heureux ceux qui croient sans voir, ceux qui ont cru sans avoir vu ». La sobriété de Marc, ce n'est pas un trait de son caractère, c'est un choix théologique délibéré. Reste qu'il faut quand même un certain culot pour terminer l'évangile par ces mots, car elles avaient peur. Il a été réveillé. Il n'est pas ici dans le tombeau, n'est-ce pas quand même une bonne nouvelle? Marc ne prend-il pas le risque de décourager ses lecteurs? Terminer par la peur, ce n'est pas très engageant, surtout en temps de crise. Et Marc écrit en temps de crise. Après la destruction du temple de Jérusalem, avec le judaïsme à reconstruire, avec des communautés chrétiennes émergentes et différentes. Et nous qui lisons dans ce 21e siècle qui n'a même pas encore 25 ans, eh bien nous le savons labouré par de multiples crises. Alors ne vaudrait-il pas mieux une fin d'évangile pleine d'espérance, avec de la joie et de clairs encouragements? C'est justement parce qu'il y a crise que Marc prend ses lecteurs très au sérieux. Mais pour lui, la crise fondamentale, la crise fondatrice, ce n'est pas la situation à Jérusalem et la destruction du temple. La crise décisive pour Marc, qui est décidément un auteur très culotté, la crise décisive, c'est Pâques, c'est la traversée de la mort à la vie. Reprenons le récit. Trois femmes marchent vers le tombeau dans lequel le corps de Jésus a été déposé. Trois femmes, c'est-à-dire dans le premier siècle, celles qui sont en situation de dépendance, d'un père, d'un mari, d'une famille, un statut de minorité permanente. Pour la plupart, même s'il y a des exceptions, elles sont confinées dans un rôle domestique, subalterne, dont il reste quelque chose au XXIe siècle. Ces trois femmes portent des aromates qui servent au rituel d'ensevelissement qui n'ont pas pu être effectués lors de la mise au tombeau car le sabbat était tout proche. D'une certaine manière, avec ces rites, elles viennent confirmer la mort. Et chemin faisant, elles se demandent « Qui roulera pour nous la pierre ?» C'est que pour elles, la situation est bloquée. Elles n'ont pas la force nécessaire pour ouvrir le tombeau. Alors le rituel ne pourra avoir lieu, les aromates resteront dans les pots, l'argent aura été dépensé en vain, et le deuil, elles se seront déplacées pour rien, et le deuil n'en sera que plus cruel. Tout cela est insensé. Et ce n'est pas la peine de se dire qu'elles auraient pu y penser avant, à cette pierre à rouler. Marc n'attend pas de ses lecteurs qu'ils rectifient son récit, ni qu'ils imaginent ce qu'il n'a pas écrit. Mais les femmes, ce matin-là, marchent dans une impasse. Elles vont droit dans la pierre. Mais au moins, elles en sont conscientes. Elles n'ont pas la capacité de résoudre le problème, mais elles ne le nient pas. Elles ont conscience d'avoir besoin d'aide, même si elles ne savent pas qui les aidera. Qui roulera pour nous la pierre? Ce qui est très différent du simple constat d'impuissance, Nous ne pouvons pas rouler la pierre. Leur question, une question sans arrière-pensée, c'est une petite espérance. Oh, pas l'espérance en la résurrection du Christ, mais une petite espérance d'une solution, d'une sortie de l'impasse. C'est une question ouverte, une question d'ouverture, qui leur permet d'avancer sur le chemin malgré le fait énorme de cette pierre très grande qui ferme le tombeau. Et une ouverture dans une impasse, c'est déjà une bonne chose, même si elle semble trop petite pour qu'on puisse passer par là. Mais après s'être posé cette question ouverte, les femmes lèvent les yeux. Elles regardent plus haut et plus loin que leurs pieds, plus loin et plus haut que les 20 centimètres de chemin devant leurs pieds. Mais lever les yeux, c'est aussi une manière de prendre de la hauteur. Hauteur de vue et de compréhension. Élargissement du regard et de l'intelligence par rapport à l'immédiat, par rapport aux émotions, par rapport à l'impuissance, à l'incapacité. Et c'est peut-être la question ouverte qui provoque le mouvement des yeux. Une petite espérance permet une autre vision des choses. Alors voir plus loin, voir plus large, et pas seulement, car le verbe grec traduit là par « lever les yeux » signifiait également « voir de nouveau », « recouvrer la vue ». C'est ce même verbe qui exprime le recouvrement de la vue pour les aveugles dans le passage du livre du prophète Ésaïe que Jésus lit à la synagogue de Nazareth dans l'évangile de Luc au début de sa prédication. Les femmes lèvent les yeux, elles recouvrent la vue. Et ce qu'elles voient alors, ce n'est pas ce qu'elles pensaient, ce n'est pas ce dont elles étaient persuadées, ce n'est pas ce qu'elles croyaient, tous ces présupposés, ces préjugés, ces a priori qui altèrent la vision, quels que soient les siècles. Ce qu'elles voient, ce n'est pas ce que Marie de Magdala avait vu de ses yeux 3 jours auparavant, la mise au tombeau, la lourde pierre roulée. Ce n'est pas non plus ce que Marie, mère de Jacques et Salomé, avait entendu dire, peut-être par Marie de Magdala elle-même. Non, levant les yeux, recouvrant la vue, elle voit la réalité. La pierre a été roulée. Et un jeune homme est assis dans la tombe. Au lieu du corps mort de Jésus, un être vivant qui annonce « Il a été réveillé », c'est-à-dire « Il a été ressuscité ». Ce n'est plus l'heure du deuil. Les aromates ne servent vraiment à rien. La mort n'a pas été la plus forte et la faim n'a pas été la fin. Alors là, voyez-vous, c'est un peu comme si la terre s'arrêtait de tourner. Qu'il n'y ait pas rien là où il n'y avait plus rien. Qu'il y ait du nouveau là où il n'y avait que du vide. Eh bien oui, cela effraie, cela fait peur. Parce que ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui va à l'encontre de cette profonde certitude humaine que la mort a le dernier mot sur toute existence, et cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Mais ce n'était pas ce jour-là. Une nouvelle à laquelle il est impossible de se préparer, parce qu'elle est simplement impensable, c'est effrayant. Surtout que l'humain s'habitue. L'humain s'adapte à la mort, à sa prégnance. L'humain s'habitue, il s'adapte au malheur, à la violence, à l'injustice. Tout ce qui participe à la forme du monde, et même si c'est moche, eh ben c'est ce monde-là, c'est dans ce monde-là qu'il faut vivre ou survivre. Alors on y jette ses forces, même si on en a très peu, et on fait tout ce qu'on peut pour y vivre ou pour y survivre. On s'organise avec des défenses, des habitudes, des explications, des idéologies, des calendriers, des identités, des certitudes, personnelles ou communes, sociales ou religieuses, pour vivre, pour survivre. Autant de protections, mais qui sont en même temps des garanties à la domination de la mort. Parce qu'il est impossible de penser qu'il puisse en être autrement, au premier comme au XXIe siècle. Mais il a été réveillé. Il a été ressuscité. Alors les protections, les habitudes, les explications, les certitudes, les identités, tout cela est renversé. Alors les femmes sont hors d'elles, littéralement en grec, en extase, ce qui est faiblement traduit par stupéfaite. Mais il s'agit de bien plus que cela. Elles sont hors d'elles, les repères connus ont été abattus. Si la mort n'a plus le dernier mot, elle a perdu son emprise sur la vie et tout ce qui est organisé dans cette emprise, en fonction d'elle, même pour s'en prémunir, tout cela n'a plus de sens. Et les femmes se retrouvent dans l'inconnu. Pâques provoque une crise des repères, des pouvoirs, des statuts, des rôles, pour les plus forts comme pour les plus faibles, pour les privilégiés comme pour les défavorisés. Pâques est une crise, c'est la fin d'un monde. Parce que là où il devait y avoir la fin et plus rien, ce n'est pas la fin et il n'y a pas rien. C'est la fin d'un monde, mais qui survient dans une expérience personnelle et singulière. C'est-à-dire que Pâques représente la fin d'une compréhension du monde et donc de la manière d'y vivre. Le jeune homme a dit « N'ayez pas peur, car ce n'est pas le chaos ni le néant. Autre chose commence aussi. Pâques est le commencement d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle manière de vivre. Pâques est le faire part d'une nouvelle mise au monde. Mais comment ? Il vous précède en Galilée. Ben pourquoi en Galilée ? Parce que c'est là que tout avait commencé. Et que maintenant que le Christ est vivant, il s'agit de commencer à nouveau. Aller en Galilée, ce à quoi les disciples sont appelés, n'a rien à voir avec la géographie. C'est-à-dire, la Galilée, c'est là où Jésus a commencé son ministère. La Galilée, c'est au début de l'évangile de Marc. C'est le début de l'évangile. Lire, c'est interpréter. Lire l'évangile, c'est interpréter ce qui est écrit et ce qui est vécu, c'est-à-dire le monde, sa propre existence dans le monde. Aller en Galilée, c'est lire à nouveau l'évangile à partir de la lumière qui se lève le jour de Pâques, à partir de ce renouvellement de l'être que représente Pâques. Aller en Galilée, c'est reprendre les chemins de la vie, avec les joies et les peines, les épreuves et les découvertes, mais les vivre dans cette lumière qui s'est déjà levée, qui vient toujours de derrière celui ou celle qui entre, lecteur, disciple du 1er ou du 21e siècle, et vivre dans cette lumière. C'est être ressuscité. Tel est le chemin que Marc ouvre à ses lecteurs et aux disciples. Vivre en ressuscité, en déshabitué du malheur et de l'emprise de la mort sous toutes ses formes, en désadapté de la violence des rapports de force et de l'injustice. Et ainsi, ce ne sont pas la peur et le silence qui terminent l'évangile de Marc, parce qu'il n'est pas terminé. Il n'est jamais terminé, il n'est pas achevé et il n'a pas besoin des ajouts même canoniques. L'évangile de Marc est un évangile ouvert, parce que la résurrection, c'est l'ouverture à quelque chose d'autre qui ne vient pas de nous. L'évangile de Marc est un évangile ouvert que chaque disciple poursuit par son existence propre, en vivant de ce dont l'Évangile témoigne à travers les actes et les paroles de Jésus, qui est le ressuscité, et que Marc fait apparaître. Celui qui s'approche des plus démunis et des plus fragiles, celui qui révèle et prend soin de l'humanité de chacun, celui qui libère et qui nourrit, qui enseigne et qui questionne, celui en qui le règne de Dieu s'est approché. Chaque lecteur, chaque disciple continue l'évangile en y réfléchissant, en le pensant, en le racontant, en vivant son existence de ressuscité, non gouvernée par des stratégies de survie, même dans les crises de l'histoire, mais une existence de ressuscité, se laissant inspirer par le Christ vivant. Aujourd'hui, nous pouvons être fatigués par l'épreuve que nous supportons depuis plus d'un an, effrayés par les perspectives difficiles des mois qui viennent, agacés, énervés des contraintes qui nous empêchent de mener nos relations et notre quotidien comme nous le souhaitons, éprouvés par la maladie ou endeuillés par les décès de proches. Nous pouvons être inquiets de l'augmentation de la précarité, de l'affrontement toujours plus violent des positions, des croyances, des idéologies, inquiet de la fragmentation de notre société, du changement climatique et des atteintes à la biodiversité. Et pour une de ces raisons, ou plusieurs, ou pour d'autres, certains ont le sentiment que nous allons droit dans un mur. Mais voici, nous sommes éclairés par la lumière de Pâques, et aucune ténèbre ne peut engloutir cette lumière. Aucune pierre ne peut rester en place. Alors, nous pouvons poser des questions ouvertes, car aucun modèle social, politique, religieux ne peut poser un point final à l'histoire. Nous pouvons lever les yeux et voir des signes de vitalité, de fraternité, de compassion, et en produire nous-mêmes, librement, délibérément. Nous pouvons, malgré les impasses et les peurs, reconnaître des initiatives de solidarité, de justice, de préservation des vivants, nous y associer, en créer nous-mêmes. Nous pouvons nous mettre en quête de nouvelles manières de vivre ensemble, plus respectueuses d'autrui et de la terre, en étant vigilants à ce qu'une idolâtrie ne soit pas remplacée par une autre. Et nous pouvons aller en Galilée, lire et relire à nouveau les Écritures, le monde et la vie, pour pouvoir interpréter d'une voix libre et intègre notre existence de ressuscité, ressuscité par la grâce, par l'amour, par la fidélité du Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever et à recevoir ce texte choisi pour aujourd'hui et qu'Éléonore va nous dire.
Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée jusqu'aux autres, jusqu'à la mort, et pourtant souveraine. Cette vie est un don qu'il nous faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi, éclairés par le témoignage des disciples, portés par la communion de nos frères et sœurs en la foi, nous croyons en lui et nous reconnaissons en lui le Christ. Fils de celui qui nous appelle, malgré tout, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec Jésus le Christ, éternellement vivant, avec le secours de l'Esprit et avec tous les humains, nous essayons de marcher vers celui qui depuis toujours nous appelle à lui et que nous nommons Dieu. Amen.
Et nous chanterons au cantique 212, « Mon Rédempteur est vivant ». Cantique 212. Annonce pour ce jour. D'abord, pour vous dire que, comme tous les dimanches à la sortie du culte, la collecte est organisée en faveur de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge dans le 11e arrondissement. Je rappelle que sont demandés des biscottes, du sucre, du lait 3e âge, du lait en briques pour les grands et pas les bébés, du sucre, également des conserves en grand ou en petit modèle, et puis, si vous le pouvez, aussi des conserves en portions individuelles que l'on puisse ouvrir sans ouvre-boîte, des dosettes de sucre ou de café. Pour les personnes que les maraudeurs de la Croix-Rouge rencontrent lors de leur sortie à Paris. Donc voilà, vous pouvez apporter tout cela dimanche prochain. Tous les dimanches, la collecte aura lieu. Dans les activités de la semaine qui vient, pour aujourd'hui encore, cet après-midi sera mis en ligne sur le site du Foyer de l'âme l'intégrale de la Passion selon saint Jean, qui a été enregistrée ici même jeudi par l'ensemble des musiciens et chanteurs qui ont accompagné le culte de Jeudi Saint. Dans la journée, après avoir répété plusieurs jours, ils ont enregistré cette passion et donc elle sera disponible, vous pourrez l'entendre sur le site du Foyer de l'âme cet après-midi. Ne me demandez pas l'heure, je n'en sais rien, mais enfin voilà, vous regarderez. Et c'est un moment d'une extrême émotion pour eux, de jouer ensemble, de jouer pour des personnes, de se retrouver après de très longs mois où ils n'avaient pas joué, où ils ne s'étaient pas réunis, et de le faire en plus, ils l'ont tous exprimé pour cette passion pendant la Semaine Sainte. Donc ça a été vraiment, et je pense que cela se sent. Demain lundi de Pâques, le 5, comme c'est un jour férié avec Serge Tatichev, le catéchète qui s'occupe des pré-catés. Eh bien, nous emmenons les jeunes de nos deux groupes qui le peuvent, ils sont peu nombreux, mais nous les emmenons à la découverte du Paris protestant. Enfin, pas tout, mais enfin quelques étapes du Paris protestant entre le foyer de l'âme et le jardin des Tuileries. Donc, demain matin, rendez-vous à 9h45 ici, on entrera vers 12h30. Dommage, il doit pleuvoir. Mardi, ce sera le jour de la pause biblique. Nous poursuivons notre découverte, notre quête qui a pour thème les naissances de Jésus. Et nous irons mardi 6, je crois qu'on en arrive aux évangiles apocryphes, ces évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures. Jeudi 8 à 12h30, jusqu'à 13h30, ce sera la pause spirituelle dans le temple ici, une heure de silence, de musique, de partage autour d'un texte biblique et de prière. Samedi 10, ciel et terre, le groupe se réunira par Zoom, bien sûr, le lien sera communiqué dans la semaine. Et puis dimanche prochain, le 11, le culte sera assuré par le pasteur Patrice Rollin, animateur de l'Atelier protestant, le service de réflexion d'animation théologique de l'Église unie en région parisienne. Donc il viendra présider le culte, apporter la prédication. Et l'après-midi, j'ai mis deux affiches sur les piliers là qui encadrent la porte. Il y a un rassemblement interreligieux. Un peu sur le modèle de ce qui s'est fait, je vous en avais parlé à la synagogue de la rue de la Roquette le mois dernier. Cette fois-ci, c'est à l'église du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement. Cela donc concerne particulièrement les personnes qui habitent dans le 12e arrondissement. À 15h30, avec les représentants des communautés juives, chrétiennes, catholiques et protestants, musulmanes, mais également la présence de la maire du 12e arrondissement et d'un adjoint au maire de la ville de Paris. Et chaque représentant, une ou deux personnes, pourront partager un témoignage, un texte de leurs écritures, une prière et éventuellement un temps de musique. Donc, ce rassemblement interreligieux en temps de pandémie est organisé par l'association CIEU. L'association CIEU qui a eu son initiative et tous les acteurs religieux du 12e arrondissement ont répondu positivement. Donc, n'hésitez pas à venir. L'église du Saint-Esprit dans le 12e est très, très grande. Donc, on peut s'y rassembler, même en gardant les distances, on peut s'y rassembler très nombreux. Le 11 avril à 15h30. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Eh bien, voici le moment d'un geste de foi, d'un geste de joie et d'un geste de solidarité, puisque c'est le moment de l'offrande. rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, qui est résurrection de nos vies. Nous te remercions pour la lucidité, le courage, l'énergie, la bonté dans lesquelles nous sommes relevés, réveillés, et pour la joie qui palpite en nos âmes. Éternel Dieu, nous voulons aussi te dire que la joie de Pâques brille au milieu des ténèbres du monde. Ténèbres où des hommes et des femmes sont opprimés ou tués par des idéologies meurtrières. Où des hommes, des femmes, des enfants fuyant la mort, la peur et la haine ne trouvent pas de lieu d'accueil. Ténèbres où la préservation des intérêts économiques reçoit plus d'attention que la préservation de la dignité humaine. Ténèbres où la prédation organisée des ressources de la planète met en danger la merveilleuse diversité des espèces et le temps pour les générations futures. Ténèbres où la pandémie génère tant de peur, de fatigue, de précarité, de chagrin et accentue les divisions. Toi, tu es le Père de tous les vivants, aussi nous te prions. À ceux qui détiennent un pouvoir sur les affaires des nations et des humains, inspire un esprit de paix, la recherche de l'entente, le respect sans condition des droits et des libertés. Et à nous, qui ne tenons pas entre nos mains la direction des peuples, mais qui avons du pouvoir sur nos existences, inspire-nous le refus des situations bloquées, le courage du dialogue à reprendre, le rejet de la violence, la persévérance dans la répétition quotidienne des petits gestes fraternels. Inspire-nous l'espérance qui rejette les fatalités, qui pousse à travailler sans relâche au bien pour les vivants, comme nous l'a montré Jésus, notre frère. Et ainsi qu'il a enseigné à ses disciples, nous disons à voix haute ou dans le secret de notre cœur la prière qu'il a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation qui va être dite par Éléonore. Ensuite, nous chanterons le dernier cantique, le 205 « À toi la gloire ». Et puis, ce sera le moment de la bénédiction.
Dieu l'a ressuscité des morts. Celui que la haine, la lâcheté et l'injustice des hommes avaient crucifié. Dieu l'a remis debout, vivant. Et tous ceux que crucifie aujourd'hui l'oppression, la solitude, la souffrance et la mort relèvent la tête dans une espérance nouvelle. Notre vie à tous a reçu un sens et notre marche a trouvé un sens. Briser nos solitudes, enfoncer les barrières qui nous séparent, rompu la fatalité de l'égoïsme et du mal. Nous pouvons vivre ensemble, réconciliés. Le crucifié est vivant, Dieu l'a ressuscité. Et il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour que nos paroles et nos vies transmettent le salut, la paix soit avec vous.
À toi la gloire. Passage dans vos deuils, vos peurs et vos heures de souffrance. Que Pâques chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que Pâques vous recouvre du bien que Dieu réalise pour vous en Jésus le Christ traversant la mort et vous entraînant dans la vie éternelle. Que Pâques vous emporte dans le printemps des nouveaux commencements. Amen.